RCF. RCF et Radio Notre-Dame, tous mélomanes.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui aiment la musique. János Ferencsik était un grand chef d'orchestre hongrois, aussi réputé pour son humour, pince sans rire, que son dévouement à la musique hongroise. Un jour, répété avec un orchestre pour une représentation d'une symphonie de Beethoven, les musiciens avaient l'air un peu fatigués, un peu distraits, leur jeu manquait un petit peu d'énergie. Ils s'arrêtent soudain. En toute solennité, ils se tournent vers l'orchestre en disant « Vous savez qu'il y a quelque chose de sacré dans cette partition. Elle ne pardonne ni l'ennui ni l'automatisme. Et puis imaginez, Beethoven pourrait être derrière la porte, prêt à entendre et à nous juger. Que diriez-vous »
Éric Rouillet, Vérène Gribonval.
Bonjour Éric Rouillet. Alors vous nous avez souvent parlé de compositeurs, notamment français qui étaient oubliés ou négligés ou bien qui méritaient un sort un peu différent. Mais c'est la première fois que vous dédiez une émission à un interprète. Qu'est-ce qui vous a décidé à vous intéresser à János Ferencsik ?
Mais parce que c'est un immense interprète qui est négligé et même déprécié et discrédité par une certaine presse qu'il attaque avec flamboyance pour l'enregistrement, et je reviens à votre introduction, par rapport à Beethoven. Et alors là, c'est un vrai débat. Je précise qu'il était né à Budapest en 1907 et qu'il nous a quittés en 1984 dans cette même ville. Alors, effectivement, il adorait jouer en concert les symphonies de Beethoven, mais il estimait totalement inopportun de les graver. Après les témoignages de Toscanini, de Furtwängler, de Mengelberg et de son compatriote Ferenc Frischai. Ces symphonies, il les aimait, mais il ne voulait pas les jouer, notamment la 9e, qui est aujourd'hui surjouée, essorée, et je crois que ces symphonies de Beethoven, pendant quelques années, peut-être une décennie, il faudrait leur redonner leur goût originel et arrêter de les jouer. Je pense à certains chefs, par exemple, comme Daniel Barenboim, qui joue tous les ans plusieurs fois cette même symphonie, et finalement, c'est une sorte de système agonisant où l'œuvre a perdu son sens depuis longtemps.
Alors justement, notre chef d'orchestre, János Ferencsik, est-ce que lui, il a raté cet enregistrement des symphonies de Beethoven, ou est-ce qu'au contraire, ça vaut le coup de se pencher dessus quand même?
Je vais convoquer quelqu'un que j'ai connu, qui s'appelait Carlo Maria Giulini, et qui m'expliquait avoir enregistré la 9e de Beethoven pour Deutsche Grammophon, sans conviction, pour des raisons exclusivement commerciales et avec la pression de son label. Et János Ferencsik s'y était également résigné avec le label hongrois Ungaroton. Vous savez que près de 90% des enregistrements des symphonies de Beethoven sont quand même pas très utiles aujourd'hui.
Alors pourquoi ? Expliquez-moi.
Parce que c'est une valeur refuge pour se mesurer aux autres. Mais il n'y a plus vraiment de conviction. C'est-à-dire qu'il faut y passer. C'est comme l'intégrale des sonates de Beethoven. Il y a des pianistes qui enregistrent l'intégrale. C'est simplement pour se mesurer aux autres. Mais pas vraiment avec la conviction, le goût, l'amour des sonates de Beethoven. Et ça finit par devenir de la musique à usage unique. C'est un peu inquiétant et c'est pas passionnant. Mais je vais revenir à János Ferencsik, notre chef invité aujourd'hui, parce que il a laissé un patrimoine discographique exceptionnel. Et ces symphonies de Beethoven sont belles, mais c'est pas là où il a vraiment excellé.
Alors justement, vous avez aimé cet interprète dans quelles œuvres alors, par exemple?
Alors par exemple, le jeu lyrique sur des thèmes du folklore, qui est un chef-d'œuvre de Zoltán Kodály, qui s'appelle Les Fileuses de Transylvanie. Ce sont des divertissements inventés pour les jeunes filles du village, afin de distraire de leur chagrin quelques amis, et notamment une dont le fiancé est accusé de certaines choses. Et tout ceci est le prétexte d'une musique nationale, variée à l'infini, sont des chants populaires, d'un lyrisme débordant et somptueux. Alors, c'est une beauté miraculeuse, une passion, selon Zoltán Kodály, envers les gens d'en bas, les gens de la terre, ceux qui créent la mémoire d'une nation. Et ici, nous avons l'apothéose de la musique paysanne hongroise.
Thank you.
Voilà un extrait de ces fileuses de Transylvanie de Zoltán Kodály avec l'orchestre et les chœurs de la radio hongroise sous la direction de ce fameux chef János Ferencsik. Alors, Erukuyé, il faut quand même avouer, là, c'est quand même magistral, ça a de l'élan, c'est engagé. On a du mal à imaginer que ce chef, voilà, ces symphonies de Beethoven, vous n'aimiez pas ces enregistrements. Il va falloir nous convaincre quand même. Hein.
Voilà, mais écoutez, on va considérer que aujourd'hui, les symphonies de Beethoven, en ce qui nous concerne, sont en soins intensifs pour maltraitance. Et qu'on ne peut pas porter plainte contre la plupart des chefs qui les agressent. Donc, on va revenir à notre grand János Ferencsik.
Et ses beaux enregistrements, voilà.
Oui, parce qu'il a signé, évidemment, l'interprétation de référence des fileuses de Transylvanie. Mais également, il est l'interprète de référence des sept dernières paroles du Christ de Joseph Haydn dans sa version oratorio. Et vous ne l'entendrez jamais dans les écoutes comparatives. Ces sept dernières paroles du Christ ont été d'abord composés pour orchestre en 1786, puis Joseph Haydn les a arrangés pour quatuor à cordes et même pour piano. Et puis, il a ressenti la nécessité d'en faire un oratorio en 1795. Alors, les commentaires sur les raisons sont approximatifs. On ne connaît pas vraiment les motivations. Et puis d'ailleurs, ce n'est pas le sujet de l'émission d'aujourd'hui.
Ouais. Ce chef, comment il s'approprie cette musique, cet oratorio, cette musique religieuse ?
János Ferencsik ne se distingue pas seulement par son engagement et la couleur des contrastes dans la gravité intériorisée de l'œuvre, mais également par quelque chose qui le lie par une sorte de mysticisme, une sorte de tragique. Et personne ne peut se mesurer à lui dans cette profondeur, cette dévotion à l'œuvre de Joseph Haydn. Et ce disque mériterait d'être dans toute discothèque.
Alors on va se faire notre propre avis. un extrait des 7 dernières paroles du Christ en croix de Joseph Haydn, la version oratorio, avec les chœurs de l'orchestre de Budapest, l'orchestre d'État hongrois, sous la direction de Janos Ferencsik.
Tous mélomanes, Éric Rouillet, Vérène Gribonval.
Alors Éric Rouillet, ce chef quand même, c'est un chef qui a vraiment pu exercer son talent dans différents domaines. On a entendu au début de la musique folklorique, enfin quasi folklorique, on va dire, inspirée par de la musique, voilà, de la musique très savante, mais inspirée par de la musique folklorique, hein, Kodály. Là, c'était une œuvre très religieuse, Haydn, et cette période du Christ en croix. C'est un compositeur quand même qui savait se mettre dans des œuvres très profondes. Et...
Oui, et d'ailleurs, nous allons le retrouver dans une œuvre méconnue, de son grand compatriote Franz Liszt, avec une œuvre tardive, alors là, qui est encore plus austère et épurée que les 7 dernières paroles du Christ en croix, par son ascétisme et sa dimension vraiment religieuse. Et il s'agit du Requiem, Requiem de Franz Liszt, qui a été décrié par les critiques, qui estiment qu'il s'agissait d'une façon cynique pour le compositeur de relancer la promotion de sa popularité en sapant les bases de la musique sacrée. Or, Liszt,
oui, c'était un
vrai croyant, ouais. Un vrai chrétien, et il avait un profond respect pour le christianisme. Il écrivait d'ailleurs à Richard Wagner: tout est transitaire à l'exception de la parole de Dieu qui est éternelle. Et effectivement, Liszt était habité par des aspirations transcendantales, et comme ça a été un jeune flamboyant épris de succès,
échevelé, voilà, on voit des caricatures de lui,
et donc on l'a suspecté de faire semblant. Et en fait, c'était passé totalement à côté de sa quête spirituelle qui est vraiment palpable dans sa période de repli vers le silence.
D'accord. Alors si on revient à ce chef d'orchestre, pourquoi est-ce qu'il n'était pas plus connu du grand public? Qu'est-ce qui fait que finalement il n'a pas eu une gloire, peut-être de son vivant ou après sa mort? Qu'est-ce qui fait qu'il est resté plus si confidentiel, alors, ce chef, Janos Ferencsik?
Par exemple, Zoltán Kodály a été enseveli par le prestige médiatique de Béla Bartók, dont il était l'ami, parce qu'il a décidé de rester chez lui, dans sa ville, et de ne pas ambitionner une carrière internationale afin de donner la priorité à son patrimoine culturel, voilà, et rester au contact de son peuple. Janos Ferencsik s'est déployé un peu dans la même logique, et c'est pour cela que l'on connaît beaucoup mieux, par exemple, des chefs hongrois comme Antal Dorati, George Scholti.
Oui, c'est vrai qu'ils ont fait des carrières vraiment internationales.
Internationales, oui. Voilà, parce que ils se sont rapprochés des grandes firmes. Ils ont eu de grands orchestres, mais pas forcément supérieurs à ceux de Janos Ferencsik en Hongrie. Alors, c'est la logique d'un marché qui lie étroitement l'ambition artistique et ses répercussions commerciales. Janos Ferencsik, nous allons le retrouver dans le premier mouvement de ce Requiem de Franz Liszt. Il y met de l'engagement, de la spiritualité, de la chaleur humaine avec son orchestre et ses solistes, vous verrez, d'un niveau d'excellence rare. Et ici, nous sommes à l'opposé du spectaculaire. Liszt retrouve même l'art de Palestrina dans sa simplicité franciscaine, une musique de l'intimité dans une version une fois de plus inégalée.
Donna
Le début du Requiem de Franz Liszt avec ce chœur d'hommes de l'armée populaire hongroise sous la direction de János Ferencsik. Alors là, vraiment, Eric Ouillet, on est très très loin de la musique populaire ou d'une musique exubérante. Vraiment, c'est une musique très intérieure. Est-ce que finalement, ça nous éloigne réellement du folklore initial ?
Pas forcément, à la fois oui et à la fois non, parce que n'importe comment. C'est comme une zone intermédiaire qui relie tout le reste avec János Ferencsik. Et d'ailleurs, nous allons revenir à Zoltán Kodály, mais de façon un peu différente, avec une œuvre composée en pleine guerre, entre 1942 et 1944, pour lui dans un péril extrême, puisqu'il était à Budapest alors que la ville était bombardée par les soviétiques. Et il a écrit une missa brevis, une messe courte, qui normalement se veut une plainte, mais pas ici. Ici, c'est plutôt une invocation pleine de confiance. Et alors, Zoltán Kodály était ethnologue de formation. Et il importe alors dans cette œuvre religieuse de nombreux passages à la gloire de son pays, avec un romantisme accessible, plein d'allégresse, et une sorte de recueillement extatique, comme dans l'Agnus Dei, qui serait un peu le requiem pour la Hongrie, l'Agnus Dei de sa messe brève. Et ici, János Ferencsik conduit ce qu'il faut appeler un chef-d'œuvre, avec clarté, intelligence. Et la dimension qui fire de lui, je persiste à le dire et je l'affirme, un chef unique et à qui il fallait vraiment rendre hommage aujourd'hui.
L'Agnus Dei, extrait de la Missa Brevis de Zoltán Kodály, interprété par les chœurs de la radio-télévision hongroise, l'Orchestre symphonique de Budapest, le tout sous la direction de János Ferencsik. Rigouillet, il faut l'avouer, c'est une musique vraiment à la fois très simple et en même temps très majestueuse et facile à écouter. Hein. On imagine une musique austère, mais en fait non, elle nous happe cette musique.
C'est une gourmandise de la complexité. Ce qui fait la grandeur de notre voyage d'aujourd'hui en terre hongroise réside, je pense, dans le fait de croiser des personnages érudits, hautement instruits et cultivés, mais qui refusent d'être des intellectuels, qui s'imaginent être de grands artistes. Eux restent ancrés dans une mission, une sorte de devoir envers leur peuple dont ils font partie. Et plus ils possèdent de connaissances, et plus ils se sentent redevables dans la célébration constante envers leurs semblables. Et c'est une leçon de cultiver ainsi cette humilité et cette dignité.
Alors ce chef, justement, il était très exigeant avec lui-même, et pourtant il savait aussi se mettre au service des autres dans la musique. Hein.
Il faisait que ça. Et je vous propose de le retrouver avec les fileuses de Transylvanie que nous écoutions pour démarrer notre émission. Ce monument, la gloire de la terre et de la paysannerie. Et je pense d'ailleurs, à travers cette œuvre, que Zoltán Kodály fut beaucoup plus important pour son peuple que ne le furent, par exemple, Ravel, Debussy et Fauré en France. Parce que toute la jeunesse et tout un peuple se sont retrouvés dans ses œuvres. Simplement parce que le compositeur mettait en musique leur âme et leur identité.
Voilà, l'orchestre et les chœurs de la radio hongroise sous la direction de János Ferencsik dans ses fileuses de Transylvanie de Zoltán Kodály. Et toujours dans Tous Mélomanes avec Éric Rouillet, on s'intéresse à ce chef d'orchestre qui a dirigé beaucoup de musiques très différentes. Et est-ce que, Éric Rouillet, on retrouve comme ça, à la même époque, d'autres compositeurs qui se sont aussi bien appropriés les musiques, les cultures populaires que Kodály?
Ah oui, on a un exemple parfait. Pour célébrer l'apothéose de la musique paysanne, on a Stravinsky avec le Sacre du printemps et les noces. Et évidemment, ça exalte la grandeur chez Stravinsky, la musique russe, et chez Zoltán Kodály, la musique hongroise, ou magyar, parce qu'on dit magyar là-bas. Et ça fait que Zoltán Kodály a développé de nombreuses méthodes d'enseignement de la musique pour initier les jeunes enfants au chant et à la tradition chorale. Et surtout pour leur apprendre l'alphabet hongrois, qui devient une sorte de comptine chanteuse, une comptine merveilleuse dans Harry Janosch, qui est une comédie lyrique, qui est une merveille absolue. Et il décrit dans cette œuvre un ancien combattant, qui s'appelle évidemment Harry Janosch, qui s'autoproclame un peu hussard, qui raconte des exploits fantasmés et imaginaires lors des guerres napoléoniennes. C'est une sorte de bouffon que l'on aime. C'est très particulier. Et Zoltán Kodály le décrit ainsi. Il est la personnification de l'imagination du conteur hongrois. Il ne raconte pas des mensonges. Il imagine des histoires dans sa tête. C'est un poète. Ce qu'il raconte n'est peut-être jamais arrivé, mais il l'a vécu dans son esprit. C'est donc plus réel que la réalité. Bon, admettons. Mais il y a une complaisance, il y a une gentillesse envers les gens d'en bas, vous savez, ces gens simples. Et il a fait un admirable chef-d'œuvre. Et János Ferencsik, une fois de plus, il respire cette puissance évocatrice, je pense, sans possibilité d'envisager une autre interprétation. Avant de retrouver ce chef-d'œuvre, une petite précision, János Ferencsik a été l'assistant de Toscanini en 1930 et 1931.
Oui, mais ça va avec finalement avec l'exigence et le travail très pointu, voilà. En même temps, cette rigueur et en même temps, c'est fort intérêt pour la musique populaire et le mouvement, un mouvement naturel vers la musique finalement.
Parce qu'il aimait les gens, mais voilà. Tout simplement.
Allez, on va écouter justement cet extrait de Harry Janosch. Voilà, Harry Janosch de Zoltán Kodály, avec les enfants et la radio-télévision hongroise, le chœur et l'orchestre de l'Opéra d'État hongrois, sous la direction de János Ferencsik. Eh bien, Éric Rouillet, il faut avouer, quand même, ce chef, c'est un répertoire très varié, et puis des très beaux enregistrements avec des belles prises de son.
Des belles prises de son, beaucoup d'exigences, et puis effectivement un répertoire très varié, mais quand même une préoccupation majeure, constante, de célébrer le patrimoine de son pays, des valeurs culturelles liées à la terre, aux racines. C'est quand même un balin. Puis là, on écoutait une comptine, qui est issue d'un opéra, mais c'est pas un opéra en fait, c'est quelque chose de très particulier, Harry Janosch. On entend ses enfants réciter l'alphabet hongrois, Et toute une génération d'enfants...
Oui, a été bercée par ce...
Voilà,
par cette
musique. Et y a un air folklorique. Et nous ne sommes pas hongrois, mais on est enthousiasmés par
oui,
ça.
On est portés. En tout cas, je dois avouer, ça donne quand même envie d'aller écouter les symphonies de Beethoven, même si je sais que vous ne les aimez pas.
Ah si, je les adore. C'est les interprètes qui me dérangent.
Voilà. Éric Houillet, merci beaucoup. Ainsi, ça achève Tous Mélomanes. Je vous rappelle que lundi, à l'occasion du 11 novembre, l'émission Tous Mélomanes rendra hommage aux musiciens de la Grande Guerre. Jacques Louvier vous promènera dans les œuvres de Magnard, Debussy, Camoëns et Koechlin. La Grande Guerre, donc, rendez-vous lundi prochain à 16h.